When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes avec Yanis et Camille pour parler de l'UPA, les universitaires planteurs d'alternatives. Je vais vous laisser vous présenter.
Alors moi je m'appelle Camille, je suis étudiante en licence de mathématiques ici. Donc ici c'est sur le campus de sciences de Sorbonne Université à Jussieu, à Paris, dans le 5e arrondissement. Je fais partie de l'association LUPA ou LUPA, les universitaires planteurs d'alternatives, qui est une asso de protection de l'environnement et de transition écologique de Sorbonne Université. Cette année j'ai tenu le rôle j'étais une des deux secrétaires de l'association, entre beaucoup d'autres projets dans lesquels je me suis aussi impliquée.
Et moi, c'est Yanis. J'étais étudiant ici en biologie et je fais du droit en parallèle aussi. Du coup, je finis ma licence. Là, je fais un master de droit de l'environnement. Je suis cofondateur de l'association, du coup, qui existe depuis 2016. Et voilà, je suis toujours membre de l'asso. Cette année, j'aide particulièrement au plaidoyer. Et au départ, j'étais dans le bureau de l'association. Bureau qui est, Enfin, notre association fonctionne de façon de plus en plus horizontale, donc ça a moins de sens de parler de bureau aussi maintenant.
Et alors, c'est né quand et comment l'UPA, les universitaires planteurs d'alternatives? Je le répète parce que ça me plaît beaucoup cet intitulé.
C'est né comment? C'est né, du coup, quand moi j'étais en deuxième année, avec des amis, on discutait pas mal de tous les problèmes environnementaux, oui. Et puis on voulait faire quelque chose... à notre échelle en fait, mais c'est vraiment venu au départ juste d'une impulsion qui a été due au tri des déchets qui n'était pas fonctionnel à l'université. En fait, il venait d'être mis en place le tri des déchets papier carton. En fait, sur le campus, il y avait une poubelle avec deux côtés, un côté normal et un côté pour papier carton. Et en fait, quand on faisait notre tri, tout tombait dans le même sac en dessous. Et donc c'était un peu...
C'est la caricature du problème du tri des déchets.
C'est ça. C'est que là, non seulement, le tri était censé être en place, donc l'université jouissait de cette
belle image.
Belle image, voilà.
C'est du greenwashing, d'ailleurs.
Et en même temps, demander aux gens de faire le tri qui n'était pas assuré derrière. Et du coup, sur le moment, ce que j'avais proposé, c'était une pétition pour demander à l'université de bien faire son tri. Voilà, on l'a laissé deux jours en fait, on l'a arrêté, il y avait eu 200 signatures et on l'a arrêté pourquoi? Parce que on a trouvé que c'était pas la meilleure chose à faire en fait, enfin du moins en premier. Fallait d'abord essayer de voir d'où venait le problème, essayer d'établir un dialogue avec l'administration et du coup voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis en même temps, on était juste des étudiants quoi, on n'était pas regroupés sous une forme de groupe, voire d'association.
Mais c'était complètement informel.
Voilà, et donc... on s'était dit qu'on allait essayer de passer par soit les élus étudiants, soit par une autre association. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire sur une université pour la protection de l'environnement. Moi, j'avais participé à une formation dispensée par le réseau des étudiants français pour le développement durable, le REFED, qui met à disposition des étudiants un certain nombre d'outils pour leur expliquer comment rendre leur établissement éco-responsable. Ils avaient fait une formation et là, ça a participé à me rendre compte qu'il y avait plein de choses à faire sur l'université. Et donc l'idée est venue de carrément créer une association et de travailler sur tous les plans possibles sur l'université, voilà.
D'accord. Et vous, Camille?
Alors moi, j'ai rejoint l'association depuis à peu près un an, enfin, de manière très intense, disons, depuis un an, donc à peu près deux ans après sa création. Avant ça, je prenais les paniers bio, on fait une distribution de paniers bio toutes les semaines, donc je prenais juste les paniers bio. Et là, depuis la rentrée, je me suis vraiment très très impliquée dans l'association, et dans de nombreux projets qu'on a.
Une université éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, une université éco-responsable, c'est en fait une université qui protège l'environnement, disons, tant dans ses missions, c'est-à-dire ses activités d'enseignement et de recherche, mais aussi dans son fonctionnement en lui-même, c'est-à-dire justement tous les déchets qui sont produits par l'université, l'énergie qui est utilisée, l'alimentation dans le restaurant universitaire ou dans les distributeurs automatiques, les transports des usagers de l'université, les déplacements à l'étranger, enfin voilà. Donc c'est à la fois enseignement, recherche et fonctionnement universitaire.
Et du coup, en termes d'étudiants sur les différents lieux concernés, couverts, on va dire, par l'UPA, ça couvre un bassin de population de combien de personnes ?
Alors sur la faculté des sciences où on se trouve, il y a au moins 30 000 étudiants. Sur l'ensemble,
ouais. C'est un peu moins.
Avec médecine, pardon.
Oui, avec médecine. Alors, en fait, il y a, là sur le campus en lui-même, il y a à peu près 23 000 étudiants. En revanche, si on compte l'ensemble des campus, et notamment les 5 ou 6 gros campus intramuros, il y a près de 55 000 étudiants, il me semble. Donc ça fait 63 000 personnes en tout, avec le personnel de l'université. Ouais. Les enseignants-chercheurs, toute l'administration.
Donc on dépasse les 60 000 sur toute l'université en termes d'usagers. Donc c'est vrai qu'on se dit que si on arrive à transformer un lieu comme ça, qui en plus qui est un lieu de transmission de savoir assez central, enfin déjà c'est un impact qui est absolument pas négligeable, et ça peut faire effet boule de neige, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, justement, maintenant vous êtes combien, vous vous occupez de tout ça, et qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ?
Alors, oui, ça a été très progressif, notamment parce qu'au début, il n'y avait pas forcément autant de membres qu'aujourd'hui. Donc, au début, les premières choses à avoir pu être mises en place, c'était par exemple la distribution de paniers bio. C'était pas trop compliqué à mettre en place.
Et ça marchait bien ? Il y avait un intérêt ?
Oui, ça marchait par le bouche à oreille, oui. Surtout.
Et ça venait d'où vous les remplissiez ? Comment ces paniers bio ?
Alors, c'est un producteur qui est dans les Yvelines, qui en fait distribue déjà des paniers bio dans d'autres universités parisiennes. D'accord. Donc en fait, on est un peu juste rentré dans le circuit. Et donc, il fait aussi une distribution. Il nous livre aussi sur le campus. Et petit à petit, on s'est élargi. Donc, il y a des paniers de fruits et légumes. Il y a aussi des œufs et quelques autres trucs, des fois, que lui, il nous propose. Et maintenant, on a aussi un autre partenariat avec un boulanger qui fait du pain, voilà, toutes les semaines. Ça, c'est pour les paniers bio. Et après, on a aussi assez rapidement fait de l'événementiel pour sensibiliser. Du coup, depuis l'année de la création de l'association, ça fait 3 ans, on organise un festival une fois par an. La 3e édition a eu lieu au mois dernier, au mois d'avril.
C'était trop bien.
C'était trop bien.
J'ai pu passer les photos sur votre page Facebook.
Ouais, mais c'était vraiment
le festival,
une grande...
de la musique, du cinéma, qu'est-ce qu'il y a dans ce festival ?
L'idée, c'est bien sûr de faire des conférences, des projections documentaires, des ateliers, mais de faire tout ça dans une ambiance festival. Donc là, il y avait vraiment des concerts pendant 4 jours. Sur une scène d'ailleurs, tout un mobilier de festival qui était fait en palette par un collectif qui vient faire ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On a fait aussi des disco soupes. C'est un nom qu'on a repris. L'idée, c'est juste de faire un repas à partir des invendus du marché qu'on va récupérer le matin dans le quartier. De se mettre tous à la planche autour. Voilà, on a fait ça.
Ouais, voilà. Et puis sinon, on a organisé, il y a eu un certain nombre de conférences aussi sur 4 jours. Il y en a eu 4 ou 5. Ouais. 5 même.
Donc là, avec des intervenants extérieurs.
Ouais, des intervenants extérieurs ou de l'université. On a fait intervenir des personnes, des enseignants-chercheurs de l'université, du muséum d'histoire naturelle notamment, entre autres choses, et de diverses associations. Il y a aussi, peut-être qu'on a oublié de mentionner, on a aussi fait cette année un village des associations. Il y a plein d'associations qui sont venues présenter ce qu'elles faisaient à leur échelle, comment est-ce qu'elles s'engageaient pour la protection de l'environnement. Donc voilà, on a accueilli des associations très très diverses, allant de Zero Waste France à Greenpeace ou d'autres associations, comme par exemple, je pense là tout de suite à Lundi Carottes, qui est une association qui fait une newsletter sur la consommation durable. Enfin, voilà.
Il y avait la fresque du climat, ouais. C'est un atelier de sensibilisation aux causes et conséquences des dérèglements climatiques. Aussi un atelier de réparation vélo, puis aussi une exposition.
Donc pour le festival, il y a aussi une autre association qui s'appelle Facteur Commun, qui est une association à Nanterre, et qui nous a permis d'avoir une exposition d'art. C'était très chouette et ça a vraiment permis d'enrichir le festival, et c'était quelque chose qui a été dans la, dans la durée, quoi, en fait, parce que sur vraiment toute la période du festival, il y a eu cette exposition-là qui était là. Et
donc voilà. Liée à la thématique ?
Ah oui, oui, bien sûr, enfin liée à l'environnement toujours. Oui. Oui, c'est une association, je n'ai pas précisé, mais c'est une association engagée pour l'écologie de Nanterre.
Donc des photos sur votre page Facebook, des grands panneaux dans les couloirs de l'université,
exactement.
Avec des messages et des...
Ouais, c'est ça.
C'était ça,
exactement. D'accord. Il y avait différents trucs et c'était très chouette. Voilà, et en fait, juste pour finir, c'est une exposition qui a été exposée à Nanterre, faite par cette association, et qu'on a déplacée en fait, ensuite ici,
d'accord,
sur le campus de Jussieu.
Ça circule.
Voilà.
Et puis après, bon, on fait du coup des conférences, projections documentaires plus ponctuelles en fait. C'est-à-dire on fait un festival toute l'année, et puis après on en fait un bien concentré à un moment.
Donc il y a des projections de débat en fait,
ouais,
toute l'année. Comment ça répond ? Il y a du public mobilisé ?
Je pense que ce qui est compliqué, c'est le fait qu'on soit dans une université dans laquelle il n'y a pas forcément autant de... C'est pas vraiment un lieu de vie souvent, l'université, pour beaucoup des étudiants. Enfin, c'est un peu un lieu où on vient, on va en cours, puis on repart. Et du coup, effectivement, c'est pas toujours facile de trouver des personnes, enfin de mobiliser les gens en fait et d'intéresser les gens. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette ambiance-là qu'on peut retrouver par exemple dans certaines écoles dans le supérieur. Après, typiquement, le festival, enfin ce que permet le festival, c'est-à-dire qu'on est dans le campus, on prend de la place, on fait du bruit et pendant un moment. Et donc là, évidemment, il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui nous rencontrent, qui découvrent l'association.
Vous mettez en travers de leur passage, en fait.
Oui, c'est un peu ça, oui. C'est comme ça que ça marche. Alors que si on fait un petit événement dans un amphi, tout ça, c'est un peu plus difficile.
J'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi. En quoi ça consiste, ces ateliers ?
Déjà, on fait des ateliers de do it yourself, pour apprendre à fabriquer des choses de façon écologique, avec des matériaux écologiques. Par exemple, faire tout simplement de la lessive, ou planter semer des graines de quelque chose pour les ramener chez soi. Il y a aussi des ateliers plus théoriques aussi sur l'écoféminisme, c'est-à-dire...
Je peux en parler. Ouais. Du coup, cette année, on a organisé, notamment dans le cadre du festival, un atelier règles et environnement sur les menstruations féminines. Et donc l'idée, c'était de présenter un peu les problématiques qu'il y a, que ce soit pour l'environnement ou même pour le corps des personnes qui ont leurs règles, de présenter les problématiques avec tout ce qui est le jetable et voir s'il y a des alternatives et en discuter. Et l'idée, c'est de créer un espace de discussion autour de ça. Voilà, et donc ça, on l'a organisé. Alors là, cette année, on l'a fait nous-mêmes, on l'a aussi organisé par le passé avec l'association féministe de la fac aussi. Donc ça permet d'avoir un peu deux perspectives qui finalement se rejoignent.
Donc le festival, les discos soupes, les ateliers, les loupes apéro.
Ouais, ça c'est des assemblées générales de l'association. On se retrouve pour faire le point sur les différents pôles. Enfin, en fait, on a des pôles d'activité et c'est le moment où chacun peut faire un compte-rendu de l'activité du pôle, on en discute et on essaie de prendre le maximum de décisions pendant ces moments-là. Après, on fonctionne aussi beaucoup, on prend beaucoup de décisions en ligne et ça... sur des réseaux sociaux qui nous permettent d'avancer plus vite. Et ça, c'est vrai que ça aide pas mal. Puis on a aussi, cette année, démarré un week-end d'intégration. Ouais. Et on voulait faire quelque chose d'un peu alternatif par rapport au bureau des étudiants, disons classique. Et donc là, ça avait été fait cette année. Enfin, c'est pour la première fois, on l'a fait cette année avec l'association féministe La BAF. Et on est parti pendant 2 jours en Normandie. Et voilà, il y avait sur place des moments de discussion, des ateliers, des repas collectifs, tout voilà, c'était...
Et l'idée, c'était vraiment de faire un week-end un peu alternatif qui soit plus inclusif que les week-ends d'intégration classiques, qui soit inclusif notamment pour tout ce qui est la question de... typiquement des régimes alimentaires, donc le week-end était quasiment intégralement végétalien, donc vegan. Et c'était aussi inclusif parce qu'il y a... Souvent, malheureusement, dans les week-ends d'intégration, il y a des problèmes d'agression sexuelle. Donc là, on a vraiment mis en place, notamment grâce à l'association féministe, on a essayé de créer un environnement vraiment sécurisant. Enfin voilà, et donc l'idée, c'était vraiment de permettre à chacun et chacune qui ne se reconnaît pas forcément dans les week-ends d'intégration classique, de voir qu'il y avait une alternative. Et c'était aussi un week-end qui se voulait assez solidaire, puisque le transport, le logement, la nourriture, tout compris, c'était 25€ par personne. Ce qui n'est pas du tout les prix classiques d'un week-end d'intégration normal, on va dire.
Puis ça a permis de... Enfin, c'est au début de l'année, ça a permis à un groupe de bénévoles de se former aussi et de se souder dès le départ. Et c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, on a notre activité de sensibilisation, l'activité de plaidoyer auprès de l'administration, des élus, Mais en même temps, c'est aussi l'objectif est de faire de l'événementiel pour, enfin, juste pour faire la fête, si je puis dire. Parce que si on fait tout ça, si on veut transformer notre université et plus largement notre société, c'est aussi parce qu'on a envie de vivre heureux et ça, c'est important. Voilà.
Trouver des alternatives.
Alors concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place depuis que vous avez commencé?
Alors du coup là, pour remettre un peu les choses, on a beaucoup parlé de la partie événementielle de
Oui.
l'association, et donc il y a vraiment une autre grande partie très importante de l'association, et je pense dont on est assez content et
Ouais.
contente, enfin parce que pas toutes les associations ont l'opportunité de faire ça, mais nous on le fait et ça avance. Donc c'est la partie de plaidoyer qui consiste en un dialogue avec à différentes échelles de l'université ou externe. Par exemple, on est aussi en dialogue avec le CROUS pour les questions d'alimentation, un dialogue pour faire avancer les choses du point de vue de la protection de l'environnement. Mais je vais te laisser en parler.
Ouais, en fait, depuis le départ, on est en discussion avec les élus étudiants et puis l'administration. Ça a mis un peu de temps à se réveiller, mais là, au bout de la troisième année, disons que ça, on est vraiment rentré dans une transformation de l'université depuis le début de l'année. Ce qu'on a fait, en fait, c'est avec les élus étudiants, on a fait ensemble une proposition de texte qui a été donnée au conseil d'administration, où dans ce texte, justement, on rappelle l'urgence de la situation environnementale. Et l'intérêt que l'université s'engage et soit exemplaire là-dedans. Donc tout de suite, le conseil d'administration a signé ça à l'unanimité, moins une abstention, disons. Parce que en fait, par le passé, nos tentatives de... En fait, on ne savait pas forcément à qui s'adresser. Et au bout d'un moment, il y a eu un vice-président développement durable, enfin patrimoine, infrastructure, accessibilité, développement durable, qui a été élu depuis 2018. Et on avait rencontré ce vice-président-là. La discussion n'avait pas été très fructifiante. On avait proposé un certain nombre de choses, notamment de mettre en place une structure basée sur un modèle qui existe déjà dans d'autres universités en Europe, qui s'appelle le Green Office. Et l'idée, c'est de faire un peu une sorte de commission et en même temps de lieu où il y a des volontaires et des référents environnement qui se sont même payés pour ça, et que cette structure dispose d'un mandat officiel de l'université pour avancer sur toutes les questions environnementales. Donc ça avait mis un peu de temps, ça pas été fructifiant, mais là depuis cette année où ce texte a été voté, donc à la fin de ce texte, il est prévu qu'il y ait un plan d'action, une charte et un bilan environnemental qui soit réalisé d'ici la fin de l'année. Donc on y arrive en ce moment. Et depuis, ce qui a été mis en place, c'est un groupe de travail dit développement durable, même si nous, on ne sait pas forcément du tout le mot qu'on utilise. Enfin, c'est plus la notion de développement qu'on critique, disons. Et surtout qu'il y a d'autres appellations qui peuvent bien remplacer ça. Et donc ce groupe de travail travaille depuis janvier, et là on est en train d'élaborer le plan d'action et la charte, et ça se passe bien. Au départ, on était un peu perçus comme des idéalistes qui veulent faire avancer les choses plus vite que la musique, mais les relations se sont vraiment des crispées. Et là, vraiment, nos réunions qui ont lieu entre une et deux fois par mois
On
sont
se voit
vraiment
en
de...
plus,
Ouais.
de plus en plus.
Ouais.
Oui,
Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail. Donc,
non.
depuis le départ, on avait demandé beaucoup plus de réunions parce qu'on savait que le travail serait assez gros. Mais voilà, je pense qu'on va rentrer dans les temps. Et ce qu'on a fait, en fait, pour porter tout notre plaidoyer, c'est depuis du coup 2018, on rédige un livret de propositions. Justement, on détaille toutes nos propositions par rapport à l'énergie, par rapport à l'alimentation, aux déchets, aux transports,
À
à
l'enseignement.
l'enseignement, la recherche aussi, aux activités associatives et aussi à créer un cadre institutionnel pour la protection de l'environnement qui fonctionne bien sur long terme et qui mêle tous les acteurs de l'université. Et puis aussi à ce que toute l'action environnementale de l'université soit bien transparente pour les membres de l'université, que chacun puisse être concerté dans ce processus. Voilà, donc il y a beaucoup de points à traiter, mais on y arrive.
Mais donc
Bientôt,
ces
j'espère.
propositions, est-ce qu'il y en a qui ont été accueillies et qui se sont déjà concrétisées?
En fait, ça, c'est l'idée, c'est du plaidoyer, ce qu'on appelle le plaidoyer général. Donc c'est vraiment à une échelle un peu relativement haute, parce que c'est vraiment au niveau le plus haut de là où les textes sont faits pour l'université. Après, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est du plaidoyer spécifique. Donc là, c'est on prend une problématique en particulier, et là, on va demander à... Mais du coup, c'est pas les mêmes personnes auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire que le plaidoyer général, c'est vraiment avec la présidence de l'université, et sinon, ça va être, pour le plaidoyer spécifique, ça va être avec différents acteurs. Par exemple, on peut parler du plaidoyer alimentation. où là, du coup, on mène un dialogue. Pour le coup, c'est pas vraiment avec l'université, c'est surtout avec le CROUS. Et on demande des alternatives végétaliennes, on demande plus de nourriture locale et de saison, on demande, si possible, du bio ou du certifié commerce équitable, ce genre de choses. C'est un point de vue plus concret.
Et donc, ça, où on a fait plus d'avancées. Pour
l'alimentation. Et donc, voilà, pour l'alimentation, par exemple, on est... Là, le CROUS a mis en place, dans le cadre d'une semaine étudiante organisée par le REFED, dont parlait Yanis tout à l'heure, donc le REFED, c'est le regroupement des associations écolo, on pourrait dire, étudiantes de France. Et donc, toutes les semaines, il y a une semaine spéciale. Et là, pendant cette semaine-là, le CROUS a fait, sur le campus de Jussieu, il y a eu un repas entièrement végétalien. Donc, on peut déjà saluer cette avancée-là. En plus de ça, il y a un tri des déchets alimentaires et non alimentaires qui est réalisé sur le CROUS, qui permet de revaloriser les déchets alimentaires.
Donc, nous, on a aidé à la sensibilisation des gens qui mangent au CROUS pour les inviter à faire le tri et à leur expliquer à quoi ça servait. Et donc, en l'occurrence, c'était de faire du compost ou de faire du gaz avec.
Là, il y a aussi eu une action de sensibilisation par rapport au gaspillage alimentaire, ce genre de choses. En fait, on a réalisé une pesée des restes, en fait, pour que les étudiants aussi se rendent compte de ce qui restait dans leur assiette. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on mène avec... Enfin, ça, c'est un combat qu'on mène notamment avec la mairie de Paris, qui s'engage aussi beaucoup en faveur, enfin, qui a aussi un rôle de plaidoyer vers le CROUS et qui leur demande un peu les mêmes choses qu'on demande.
Puis par rapport au tri des déchets, du coup, ça c'est avec la direction de la logistique, qui est aussi présente dans le groupe de travail qui prépare le plan d'action, la charte et tout. Mais en parallèle, donc le tri des déchets là, c'est prévu que ce soit totalement en place d'ici la fin du mois, pour les espaces intérieurs.
Donc du mois de mai.
Ouais, voilà, mai, juin, disons. Donc ça, c'est... Enfin, en ce moment, il y a des mots qui sont en train de passer dans les labos pour bien... ou dans les bureaux pour bien expliquer que ça va être mis en place, comment il faut faire, etc.
Donc ça, c'est par rapport à votre première réaction, en fait.
Ouais, voilà. Donc enfin, ça marche.
Et donc, dans les poubelles, est-ce que vous avez enfin deux sacs différents ou il n'y a toujours qu'un seul sac en dessous les deux?
Bah, en fait, ça dépend, parce que sur l'extérieur, ça va peut-être tarder un peu encore. Donc, on essaye de pousser en disant bah, pourquoi on ne le ferait pas à l'extérieur, pourquoi ça ne marcherait pas. Parce qu'on va nous dire que ça ne marche pas à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui viennent et qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas sensibilisés forcément. Mais en même temps, on répond à ces arguments-là que la signalétique, elle était pas du tout, elle n'est pas du tout suffisante et elle explique pas bien, elle est pas bien visible, tout ça. Donc il y a plein d'efforts à faire là-dessus. Voilà, qu'est-ce qui a avancé d'autre pour le moment? Il y a le bilan environnemental de l'université qui est en train d'être fait en ce moment.
Donc ça, c'est fait par qui? Comment?
Alors, donc il y a le bilan environnemental, ça c'est vraiment essayer de faire un bilan de tout ce qui existe, tout ce qui reste encore à faire.
C'est-à-dire un bilan de la consommation et production d'énergie, d'eau, de déchets. Donc là, on devrait avoir toutes les données pareilles en juin. Et à côté, il y a un autre bilan qui est en train d'être réalisé par une entreprise prestataire suite à notre proposition. En fait, on est allé voir des entreprises, on a présenté les trois devis à l'université et donc ils ont choisi un des trois devis pour faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui en fait est carrément une obligation légale depuis 2009 ou 2010 pour tous les établissements publics de plus de 250. Ça varie, quelque chose comme ça. Bref, l'université rentre dans les conditions et c'est une obligation qu'elle a depuis une dizaine d'années. Donc voilà, ils ont accepté de le faire et ça, on devrait avoir les résultats aussi bientôt. Certainement que les émissions de gaz à effet de serre devraient être élevées du fait des transports en avion.
Les déplacements des chercheurs, c'est une grande problématique.
Après, apparemment, il y a une partie... on commence à avoir quelques informations qui tombent. Apparemment, il y a une bonne partie de l'énergie utilisée par la majorité de l'université qui serait issue de sources renouvelables. À vérifier.
Vous sensibilisez aussi, ou en tout cas vous tentez de le faire, par rapport au mouvement de la jeunesse pour l'environnement ou pour le climat?
Oui, bah les deux. Alors, donc on s'est mobilisé durant d'abord les marches pour le climat, où on a proposé juste des ateliers, et puis après un départ commun pour aller aux marches. Donc ça, c'était, disons, au premier semestre de l'année. Et là, depuis le second semestre, effectivement, il y a une mobilisation plus importante de la jeunesse, en particulier, je veux dire. Tu veux en parler un peu?
Ouais, c'est ce que tu as dit, voilà. L'idée était de faire un atelier pancarte le matin sur l'université, le faire en extérieur aux yeux de tout le monde, et ensuite de faire un départ commun. Après, il y a beaucoup de gens de l'association qui sont investis à titre personnel dans le mouvement, dans toutes les assemblées générales qui se passent depuis fin janvier.
Donc là, c'est en conjointement avec les autres associations.
Oui, c'est ça. Enfin, en général, on participe à titre personnel à des marches ou à des actions. Et on essaie de mobiliser les étudiants aussi, évidemment, autour de ces questions-là. Et donc, par exemple, il y a eu la grève mondiale le 15 mars, c'était. Ouais. Grève mondiale de la jeunesse pour le climat, l'environnement, etc. Et donc là, ce matin-là, on a organisé un atelier, notamment grâce à l'association La Fresque du Climat. Donc c'est un atelier de sensibilisation pour essayer de comprendre vraiment un peu plus précisément les mécanismes du dérèglement climatique. Voilà, on a fait cet
atelier de sensibilisation. On a essayé de faire passer le message un peu partout, on a fait un appel à mobilisation. On l'a fait, par exemple, à la Sorbonne, on allait dans les amphithéâtres tôt le matin pour écrire « Rendez-vous demain à telle heure pour rejoindre le cortège ». Voilà.
Et comment vous êtes reçu, comment vous êtes perçu par tous les étudiants là, qui sont ici?
C'est toujours très difficile d'être visible dans l'université, mais j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas si c'est moi, parce que je rencontre de plus en plus de gens qui sont sensibilisés, mais j'ai l'impression... En tout cas, typiquement, l'association, elle grandit de jour en jour, enfin d'année en année, mais aussi de jour en jour. Et
il y a combien de membres fixes, vraiment?
Depuis le départ, disons, ça tourne autour de 50 membres. Mm-hmm. Et par contre, ce qui évolue, c'est les membres actifs. C'est-à-dire que là, on doit vraiment être au moins une vingtaine de membres vraiment actifs.
C'est-à-dire très engagé.
Ouais, qui est très engagé, qui connaît tous les projets, qui...
Qui peut avancer, je
crois. Ouais. Ça, c'est chouette.
Ouais. Ça nous permet d'avoir, de l'ambition aussi. Enfin, voilà, ça nous permet d'avoir à la fois de l'événementiel avec des gros projets comme le week-end d'intégration ou le festival. Et aussi d'avoir un gros travail de plaidoyer avec des plaidoyers aussi plus spécifiques. Ce sur quoi on n'a peut-être pas trop insisté, c'est que bon, alors, tous les deux, on est étudiants et étudiantes, mais c'est une association qui est universitaire. Et donc, il y a dans l'association des chercheurs, il peut y avoir dans l'association des membres du personnel, enfin, tout le monde est bienvenu. Et là où le dernier Loupa Péro, il y avait à la fois des chercheurs, des doctorants, des membres du personnel, donc c'était... C'est super, et ça nous permet par exemple d'avoir un groupe de travail au sein de l'association, un groupe de travail qui travaille plus spécifiquement sur les laboratoires. Et donc c'est parce qu'il y a 2-3 membres de l'association qui sont dans un laboratoire et ils sont en train de créer un comité vert dans le laboratoire pour essayer de d'engager une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire de la recherche, c'est la recherche en biologie, et de manière plus durable.
Ouais. Et en fait, ces réflexions-là, elles n'avaient jamais été menées avant ?
Peut-être juste rapidement, ce qui est intéressant, c'est que là, on regroupe en fait les personnes. Je pense qu'à titre individuel, il y avait des personnes qui étaient sensibilisées, qui avaient envie de changement. Et là, maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on a une structure qui est là pour porter ces demandes-là. Et les personnes, en agissant ensemble, on est beaucoup plus forts, quoi.
Ouais, parce qu'on dit aux gens aussi, c'est que on fait toute la liste des projets qu'on a en cours, comme on vient de faire, et ils sont tous les bienvenus pour rejoindre les projets. Mais notre association, l'objectif, c'est qu'elle soit aussi un lieu où, si quelqu'un a une initiative à porter, qu'il puisse venir le faire dans l'association et trouver d'autres gens pour le faire avec lui. Puis, quand on parlait du fait qu'on a de plus en plus de membres actifs, c'est là, vraiment, depuis un an et demi, on essaie de vraiment mettre l'accent sur la concertation entre les membres de l'association. Et donc, on a notre bureau maintenant, c'est-à-dire président, secrétaire, trésorier. Eux, ils sont vraiment en charge du côté administratif de l'association et toutes les décisions qui sont... décision de l'activité de l'association elle-même ou de politique l'association, disons, ça c'est vraiment pris avec tout le monde et on a vraiment développé quelque chose de, enfin une habitude de dialogue entre tout le monde et vu que cette année on a été confronté à pas mal de situations urgentes, plus ou moins aussi politiques avec les mouvements de la jeunesse, etc. Vu que là on se connaît tous bien et qu'on a l'habitude du dialogue et tout ça s'est passé vraiment, je dirais presque à merveille, quoi, les discussions.
Pour moi, c'est vraiment c'est peut-être même la plus belle réussite de l'association, c'est d'arriver à créer un lieu vraiment où les choses sont faites de manière démocratique, de manière transparente et ouverte, en fait. Et effectivement, il y a des Loupa Péro que je trouve superbes juste parce qu'on arrive et puis on débat de manière constructive respectueuse. Et ça dure une heure ou une heure et demie, quoi. Mmh. Et c'est très beau à voir.
Vous êtes combien sur les loups apéros?
On est entre une vingtaine, une trentaine à peu près.
Oui, donc il faut déjà réussir à ce que tout ça fonctionne.
Voilà, effectivement. Donc on met en place... c'est ça, on apprend aussi à gérer... Enfin, surtout pour des sujets qui sont très polémiques ou... Voilà, on apprend à gérer, à faire des tours de parole, on réutilise des symboles très classiques, enfin des signes qu'on peut faire en assemblée générale pour exprimer son approbation, son désapprobation, enfin tout ça, et ça marche bien.
Il y a quelqu'un qui est chargé de distribuer la parole, puis on a des signes pour répondre à la question, pour répondre directement.
Et donc vous êtes en lien avec d'autres assos sur Paris, avec la base, avec tout ça ou...
On est beaucoup en lien, du coup, je pense, via le REFET. On est pas mal en lien avec les associations plus spécifiquement étudiantes, des différentes écoles ou universités. On a aussi un peu des contacts un peu partout, mais parce qu'à titre personnel, on est mobilisé à différentes échelles, quoi.
Et vous, donc, je peux vous demander votre âge ?
Moi, c'est 22 ans.
Et moi, j'ai 20 ans, presque 21.
Voilà. Et donc, vous étiez dans des familles déjà sensibilisées, mobilisées ? Ou est-ce qu'il y a eu des éléments déclenchants, je dirais, qui ont fait que vous avez eu envie de vous engager sur ce sujet ?
Moi, je pense que je sensibilise mes parents à ces questions-là.
Voilà.
Oui, assez clairement, je pense que aujourd'hui, en étant... Enfin, je sais pas ce qui fait, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a quelque chose qui vient de la jeunesse. Et...
C'est pas une impression. Hein, c'est
oui, effectivement.
Je vous confirme.
Et donc, voilà, à titre personnel, j'ai l'impression de plus sensibiliser mes parents. Mais en même temps, mes parents, je pense qu'ils m'ont aussi appris à aimer la nature, par exemple. Et donc, c'est un peu un truc que finalement, je leur dois aussi, quoi. Parce que moi, j'ai grandi quand même principalement à la campagne. Enfin oui, du coup, si je veux parler de mon engagement, je pense que le fait d'arriver en ville, ça a été aussi un vecteur... ça a été... quelque chose qui m'a poussée à m'engager parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de la nature, moi, à titre individuel. Et j'ai pris conscience aussi qu'elle était en danger en ce moment. Et donc j'ai voulu m'engager et je suis un peu tombée sur Loupa. Et comme c'est la meilleure association qui existe, il n'y a pas eu la question.
Moi, je dirais plutôt aussi que je sensibilise mes parents. Mmh. Même si, en fait, ils sont sensibilisés, mais c'est plus je les sensibilise à se mobiliser.
Parce que là, il faut, vu l'urgence maintenant de la situation, le fait d'être conscient des problèmes ou de signer des pétitions ne suffit plus.
Après, c'est ça, il y a différentes étapes de sensibilisation, quoi. Je pense que déjà, il faut commencer par avoir conscience des problématiques, et ça se fait petit à petit. Et puis aussi, typiquement, moi, mes parents, ils ont toujours trié leurs déchets, ce genre de choses. Mais petit à petit, j'essaie d'avoir un autre discours. Donc là, on est en ce moment sur le « arrêter de prendre l'avion ». Petit à petit, ça commence à passer, ce genre de choses qui donnent de l'espoir.
Parce que moi, cet été, mes parents, on allait souvent en Grèce, c'était un peu le repère familial. Et là, cette année, je ne suis pas allé en avion avec eux. Ils ont pris 3 heures en avion, moi j'ai pris 3 jours, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Mais...
Du coup, tu y es allé en...
Du coup, je suis allé en train, bus, bateau. Et c'était chouette.
T'es arrivé, ils repartaient, non? Comme on dit, le voyage fait partie de...
Ah oui, c'était génial. C'est au-delà de l'aspect écologique, le fait de prendre aussi le temps. Après, il faut avoir le temps de voyager, c'est clair. En budget, ça m'a pas coûté plus cher. C'était à peu près équivalent qu'en avion. Mais le fait d'arriver à un endroit et d'avoir pu de ressentir en fait la distance. Moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est d'avoir l'impression d'être téléporté quand je prends un avion, j'arrive à un endroit. Ça c'était ouf. Et puis après toutes les rencontres qu'il y a pendant le voyage, tout ça c'est génial. Et juste pour revenir à la question qui était comment je me suis mobilisé, c'est à peu près depuis mes 15 ans que je suis vraiment sensibilisé là-dessus, que je veux faire quelque chose et que j'ai envisagé de travailler là-dedans toute ma vie, quoi.
Mais pourquoi qu'est-ce qui t'a à ce moment-là fait prendre conscience qu'il y avait un problème et que tu avais... Est-ce que ça peut être des documentaires ou des bouquins ou des gens qui parlent autour de toi?
On en parlait déjà un peu partout. Puis les choses qui m'ont pas mal marqué, c'était les documentaires de Yann Arthus Bertrand, par exemple, où pendant une heure, tu vois tous les problèmes vus du ciel concentrés comme ça. Ça parle carrément, quoi. Après, c'est aussi le fait d'avoir eu la chance de voyager aussi dans d'autres endroits, vu que j'ai la moitié de ma famille qui est au Maroc, et j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement depuis que je suis petit, et de voir que bah, dans d'autres pays, les cultures sont pas du tout les mêmes et qu'ils n'en sont pas forcément au même niveau environnemental. Enfin, là-bas, j'ai pu me rendre compte à la fois que les déchets n'étaient pas du tout gérés comme on le fait en France, mais ça se trouve, en fait, la France pollue beaucoup, enfin, beaucoup, oui, beaucoup plus que le Maroc. Mais le fait de surtout de prendre conscience que le monde est grand et qu'on est beaucoup et que l'impact est réel. Mais sinon, ce qui m'a poussé à me mobiliser dans cette association Loupa, c'était qu'à la base, j'avais l'impression que les associations, c'était surtout quelque chose de national ou des grosses institutions quand même. Et en fait, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est de faire quelque chose vraiment à mon échelle locale et d'essayer de le faire bien. Et après, on verra si on peut faire plus. Ouais. Du coup, l'association s'appelle Loupa parce qu'en espagnol, ça veut dire loupe. Et oui, tu me demandais si on dit Lupa ou Loupa.
Oui, voilà, oui,
c'est
ça.
Oui. La loupe, c'est d'agir localement, quoi, à notre échelle.
Donc vous, là, tous les deux, qui êtes bien engagés dans Loupa, comment vous le vivez? Qu'est-ce que ça vous apporte humainement, comme expérience de la vie, comme expérience pour la suite?
Alors moi, je pense que... je ne me vois pas, en tout cas à l'heure actuelle, ne pas agir alors que j'ai conscience de l'urgence environnementale, enfin des urgences environnementales. Donc déjà, c'est ça. Enfin, juste pour moi, c'est une réaction nécessaire, quoi. Et après, à titre personnel, moi, j'apprends tellement dans l'association. Enfin, c'est humainement, c'est incroyable, quoi. Je sais que j'ai toujours eu un peu du mal avec... Enfin, dans les relations humaines, c'est pas toujours facile pour moi de laisser une place aux autres, de dialoguer, etc. Et ça, c'est un truc que l'association, elle me permet de progresser, mais énormément là-dessus, et j'ai beaucoup plus progressé en 6 mois de ce point de vue-là que depuis tout le reste de ma vie, quoi. Donc, ouais. Effectivement, au niveau des relations humaines, moi, je trouve qu'on apprend énormément.
Ouais, humainement, c'est génial. Enfin, c'est vraiment une bande d'amis. C'est, enfin, aussi, après, voilà, on développe plein de capacités dans la gestion de projet. Et du coup, on fait plein d'erreurs dans cette association qu'on fera pas plus tard. Et puis, c'est vrai que ça prend du temps, que c'est un travail bénévole. Et puis souvent, on dit comment t'arrives à faire ça à côté de tes études, et puis tu pourrais peut-être plus réussir tes études si tu faisais pas ça. Mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt une source d'énergie. Enfin, clairement, pour moi, ça a été une source d'énergie d'avoir ce travail associatif et de faire des choses concrètes et de vraiment voir que ça avance. Plutôt que juste être dans des études où, en plus, tous les jours, on apprend la réalité de la crise environnementale.
Et vous avez juste à la subir.
Ouais, voilà.
Passivement.
C'est sûr que c'est... Enfin, pour le coup, c'est formateur, quoi. C'est pas nos études, mais c'est tellement formateur.
Ouais.
Donc, il y a un site internet. Je vais vous laisser rappeler l'adresse.
C'est assoloupa, donc assoloupa.wordpress.com.
Voilà, et il est très structuré, ce site, hein. Il y a beaucoup de choses quand même dessus.
Made in Camille.
Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Il a dit Made in Camille.
Effectivement, donc on m'avait prévenu que vous étiez une bonne organisatrice tout à l'heure en arrivant. Oui, non, mais c'est vrai, ça fait déjà, on dirait déjà un site d'ONG, quoi. C'est très.
C'est toujours notre volonté de transparence et d'être clair sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Sur pourquoi on fait ça. Et donc pour moi, c'était quand je suis arrivée dans l'association, en fait, et qu'il n'y avait pas de site internet, juste parce que personne n'avait eu le temps jusqu'à présent de le faire, bah, ça a vraiment été quasiment la première chose que j'ai faite, en fait. Enfin, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas codé moi-même le site internet, mais juste de le créer, de l'organiser, et ça permet de réfléchir. C'est aussi
après,
super important parce que
voilà,
de l'alimenter aussi. Effectivement, oui. C'est très important pour savoir l'image qu'on veut donner de l'association. Et voilà, et typiquement, il y a des fois où il faut qu'on transmette des messages qui sont clairs, notamment par rapport aux mobilisations, où là, l'université nous demande quelle est notre position aussi sur la question, et donc ça nous permet d'être clair, d'annoncer clairement les choses. On publie des articles, on dit ce qu'on en pense, on dit ce qui va pas.
On met les comptes rendus de nos réunions avec l'administration. Aussi, c'est là-dessus qu'on publie notre livret de propositions, qui est aussi un manifeste.
Et donc là, par exemple, dans l'idée de donner une dynamique, notre livret ou nos propositions par rapport au CROUS, tout ça, c'est publié, comme le disait Yanis, et on invite même tout le monde à s'en inspirer, quoi, parce qu'on a fait un gros travail, comme on est une association assez conséquente où il y a une dizaine de personnes qui ont vraiment bossé sur ces propositions-là, on a eu ce travail de réflexion qu'on mène toujours d'ailleurs en continu. Et donc on invite tout le monde à se saisir de ce travail-là et à s'en inspirer pour faire la même chose un peu partout.
Donc là, on va arriver en fin de l'année Un cursus universitaire. L'année prochaine, est-ce que vous serez tous les deux toujours présents dans l'association et comment vous envisagez l'avenir en fait ?
Alors moi, à titre individuel, oui, parce que je serai toujours dans l'université et donc dans l'association. J'ai vraiment envie de toujours vachement insister sur l'organisation de l'association, sa structuration, essayer de la rendre le plus pérenne possible. Voilà, j'ai pas mal fait d'événementiel cette année, je pense que je ferai pas mal de plaidoyers l'an prochain. Je vais voir suivant comment les choses évoluent, où est-ce qu'il y a besoin de monde aussi. Mais donc voilà, donc, toujours essayer de structurer l'association, enfin de mettre à disposition en fait les outils qui nous permettent d'avancer collectivement. Voilà.
Moi je pense que je vais continuer à aider un peu au plaidoyer et puis peut-être, l'année dernière j'avais dit que j'arrêterais d'être dans l'association pour laisser un peu les choses prendre et tout. Mais finalement,
je suis restée cette année. Et c'est chouette parce que. Enfin, oui, vas-y.
Mais je pense que je vais continuer à aider sur le plaidoyer. Oui. Là, ce qui est important, enfin, et bien aider à la transition pour ceux qui vont vraiment reprendre l'administration de l'asso. Donc là, on a du monde qui est motivé.
Oui, il y a du monde qui est motivé. C'est vrai que donc, l'association a été fondée au départ par beaucoup d'étudiants en double cursus, parce que ça s'est fait un peu par le bouche à oreille, donc du coup voilà. Et donc en fait ce qui se passe en double cursus, c'est que les deux premières années sont en France et la troisième année souvent à l'étranger, et donc il y a un renouvellement assez important de l'association où il y a beaucoup de membres de l'association qui en fait après partent après un an d'engagement, et donc voilà, essayer d'assurer cette transition à chaque fois tous les ans, c'est très important pour essayer de... Enfin, l'avantage de ça, du fait qu'il y ait des membres qui partent aussi tout le temps, c'est qu'ils reviennent après, et donc c'est super chouette parce que là cette année par exemple dans l'association on avait des anciens en fait, et qui servent un peu de... Enfin moi je te voyais un peu comme le papa de l'association, ou Paul, je la voyais comme la maman de l'association, donc des anciens qui reviennent et qui sont toujours là, très motivés, très mobilisés, et qui nous aident un peu. Voilà. Et donc c'est vrai que tous les ans, il y a un peu ce cycle-là, où là, bah, l'an prochain, vont revenir des personnes qui étaient à l'étranger cette année, voilà.
Oui, aussi, on est en lien avec l'Institut de la Transition Environnementale de Sorbonne Université. C'est un regroupement d'environ 2000 chercheurs.
Ingénieurs, techniciens de laboratoire, tout ça.
Qui travaillent sur la transition environnementale. Donc on co-organise des conférences avec eux, on discute de l'enseignement, parce que c'est eux qui ont lancé une mineure environnement en licence. Et donc par rapport à nos propositions à l'université, c'est chouette parce que du coup ils nous soutiennent, disons officiellement, et puis ils ont fait une relecture de notre livret, du coup qui soutiennent, et pareil on est en lien aussi avec la mairie de Paris, qui soutient aussi nos propositions, donc tout ça c'est chouette, ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Yanis, merci. Camille, et puis surtout, très bonne continuation. Bravo pour tout ce que vous faites, et je vous souhaite vraiment de réussir, et puis de pouvoir mener à bien des choses très concrètes suite à l'évolution des propositions que vous avez faites. Et j'invite aussi tous nos internautes à aller sur votre site. Je remettrai l'adresse sur la page de Sauce Week Planet, et aussi, vous avez une page Facebook.
Oui.
Qui n'est pas un groupe fermé, qui est une page, donc tout le monde peut suivre vos activités, s'y abonner et éventuellement vous rejoindre.
Tout à fait.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de Sauce Week Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sauceweekplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.